Je vais évoquer quelques exemples locaux de la situation à laquelle sont confrontés les travailleurs en ces temps où, pour garantir leurs privilèges, les classes riches contestent non seulement nos salaires et nos emplois, mais également nos droits à la santé, à l'éducation et à des services publics convenables. Ceux d'entre vous qui, au hasard d'une rue barrée, auront aperçu les rails du futur tramway penseront peut-être que j'exagère en évoquant la dégradation des services publics alors qu'un nouveau mode de transport en commun se met en place. Le problème, c'est que derrière l'affichage d'une politique soucieuse d'écologie et de développement durable se cachent parfois des pratiques moins glorieuses en ce qui concerne le chantier du tram, par exemple. Oh, bien sûr, en façade, à l'image du maître d'œuvre Veolia Transdev ou de la Sogea filiale de Vinci, les entreprises qui interviennent sur le chantier du tram ont pignon sur rue. Mais derrière, il y a les sous-traitants en cascade et les intérimaires chez ces sous-traitants. Des travailleurs auxquels on impose des conditions qui ne sont ni modernes ni durables, comme cela est apparu au grand jour lorsque fin novembre, 4 ouvriers ont révélé, en se mettant en grève, qu'ils n'avaient pas été payés depuis 2 mois. Ces travailleurs, guinéens, ouzbeks et portugais, travaillaient 170 heures par mois pour des salaires de 1100 à 1300 euros, quand du moins leur patron basé au Portugal daignait les payer. Eh bien, à 4, en dépit de la précarité de leur situation, ils ont osé dire non et osé se mettre en grève. Ils ont attiré l'attention de militants syndicaux qui leur ont donné un coup de main et ils ont obtenu que les salaires dus soient payés. Mais il n'y a pas que de petits margoulins qui abusent de la situation. ST Microelectronics, qui emploie plus de 1500 salariés à la fabrication de puces électroniques dans son usine de Tournord, a fait un bénéfice de 18 millions de dollars en 2011 pour cette seule usine et de 650 millions de dollars au niveau international. Eh bien, ST se permet de recourir au chômage partiel à raison d'une semaine par mois, imposant à la fois une perte sèche aux travailleurs et une ponction aux caisses publiques qui financent le chômage partiel. Pfizer, trust de la pharmacie, qui compte 80 000 salariés dans le monde et emploie 571, dont 36 intérimaires dans son usine de production à Possé-sur-Cisse, près d'Amboise, a consacré des sommes colossales au rachat de concurrents ces dernières années, tout en fermant de nombreux sites de production et de recherche. Ce monopoly lui a rapporté des sommes confortables. Cela ne l'empêche pas de grappiller ce qu'il peut sur la masse salariale, en négociant en ce moment même à Possé des réductions d'effectifs. Ce ne seront certes en principe que des départs volontaires, 34 sur un total de 571 personnes, mais c'est ainsi qu'au fil des années de fermeture du centre de recherche en réduction d'effectifs, le nombre d'emplois disponibles aura diminué de plusieurs centaines. Pour en revenir aux services publics, de moins en moins publics et de moins en moins services d'ailleurs, parlons de la SNCF. La suppression des navettes entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours a doublé le temps d'attente en correspondance et la semaine dernière à Saint-Pierre-des-Corps, des usagers excédés parce qu'ils ne pouvaient pas embarquer dans l'unique voiture bondée censée assurer la desserte de Tours sont descendus sur les rails pour protester. Le lendemain, dans la presse, la direction a eu le culot de répondre que le seul problème c'était le manque d'accoutumance des usagers et des cheminots aux nouvelles pratiques. La direction de la SNCF a décidément de l'imagination quand il s'agit de se défausser, invoquant tantôt la mise en place du cadencement, tantôt le gel et la neige pour camoufler l'incurie qui n'est due qu'à la course à la rentabilité au détriment du service rendu et des conditions de travail des cheminots. Provoque déjà une notable dégradation et menace de catastrophe. On en a eu un aperçu le 1er février. Ce jour-là, au sud de Tours, 2 trains de fret appartenant à 2 opérateurs privés différents se sont percutés à la suite de l'arrêt intempestif d'un TGV. La collision ne s'est traduite heureusement que par des dégâts matériels. Mais on a découvert incidemment que sous la rame de queue du TGV, le rail était rompu sur une vingtaine de centimètres. Selon nos camarades cheminots, de très nombreuses pannes sur le matériel révèlent l'absence de suivi préventif du matériel, le manque chronique de pièces de rechange et de manière plus générale, la mauvaise qualité des matériels achetés ces dernières années du fait du resserrement des budgets. Hier, dans la presse, la CGT soulignait aussi le problème des effectifs. Je cite « Il manque du monde dans les ateliers. Auparavant, lorsqu'il faisait froid, un train racleur passait pour casser le givre ou la glace sur les caténaires. Mais pour cela, il faut des équipes. » Alors on peut pronostiquer qu'il ne suffira pas toujours que la direction SNCF fasse diffuser à chaque incident des messages remerciant les voyageurs de leur compréhension pour qu'elle échappe à la colère montante. Quant aux cheminots, ils en ont par-dessus la tête des conditions de travail dégradées et d'être pris entre le marteau et l'enclume pour ceux d'entre eux qui sont au contact de la clientèle. Le jour où la colère explosera, le directeur Pépi et ses mentors du gouvernement n'auront pas besoin de chercher où il pouvait bien y avoir une chaudière dans les TGV. En Indre-et-Loire, comme partout, la politique d'aide aux patrons n'a évidemment pas permis de maintenir les emplois comme le prétendent ses défenseurs, et le taux de chômage a augmenté. Cette année, dans le département, ce sont environ 1300 personnes de plus qui ont dû s'inscrire à Pôle emploi. Il faut dire que si aucune grande entreprise n'a fermé ses portes, beaucoup d'entreprises petites ou moyennes ont licencié quand d'autres se débarrassaient des intérimaires. Parmi ces entreprises, la Comareg NR, qui publiait le journal d'annonce paru vendu, vient d'être mise en liquidation et 65 salariés des régions Centre et Poitou-Charentes, dont 20 à Saint-Avertin, sont menacés de licenciement. La SES, fabricant de panneaux de signalisation, a licencié 138 travailleurs l'été dernier. La chaudronnerie BSI, ex-Biémont, a été liquidée fin 2011 et les 32 salariés restants licenciés. Les transports Pivoin ont également fermé, laissant 175 personnes sur le carreau. À Saint-Pierre-des-Corps, Lyotard, qui fabrique des bonbonnes de gaz, a licencié 85 salariés sur 174 au printemps dernier. À Tours, les imprimeries MAM et Gibert Claret comptaient encore à L2 290 salariés il y a 3 ans. Après un plan de licenciement courant 2010, la liquidation de ces deux imprimeries du groupe Serge Lasky fut prononcée en juillet 2011 et seulement 26 emplois conservés sur les 140 restant alors. Le mois dernier, parmi les licenciés de MAM, 54 n'avaient encore retrouvé aucun travail. Les patrons de ces entreprises, eux, ne sont pas à la rue. Ils ont sauvé les profits perçus au moment où cela allait bien. Les travailleurs licenciés, eux, ont dans le meilleur des cas retrouvé des emplois moins rémunérés quand ils ne perdaient pas tout. Mais qui a demandé des comptes au Jean-Noël Lasky, l'héritier du groupe Serge Lasky, et aux autres patrons licencieurs? Qui en a demandé à la riche famille hollandaise propriétaire de la holding SVH et de sa filiale SVH Gaz, implantée dans 27 pays dont dépendent Lyotard et Primagaz? Dans ses fortunes accumulées chez les patrons et chez les actionnaires, dans les filiales, pseudo-filiales ou dans les maisons-mères, il y aurait assurément de quoi garantir l'emploi et de quoi assurer les salaires. Prendre sur les fortunes accumulées par le grand patronat offrirait en tout cas plus de perspectives aux travailleurs que les âneries protectionnistes qui fleurissent à droite et à gauche. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder la liste des grandes entreprises en Indre-et-Loire. Le fabricant de roulements à billes, SKF, à Saint-Cyr-sur-Loire, entreprise suédoise. Safety, le producteur d'outils en carbure de tungstène à Fondette, suédois, comme sa maison mère, Sandvik. Pfizer, dont j'ai parlé tout à l'heure, basé aux États-Unis. ST Microelectronics, une multinationale de droit hollandais à capitaux franco-italiens. Imaginez un peu ce qui se passerait si chacun se repliait sur sa base nationale. Et Michelin, le bien de chez nous, fabricant de pneus qui emploie plus de 1000 travailleurs à jouer les tours? Eh bien, il y a longtemps que Michelin est sorti du cadre national. Présent dans 19 pays, il emploie plus de 100 000 salariés, dont à peine un quart travaillent en France. Et sans le caoutchouc naturel, extrait jusqu'en 1940 environ par des travailleurs exploités dans les plantations d'EVA d'Amérique du Sud et d'Asie, il n'y aurait pas eu d'usine Michelin. Cela fait aussi 40 ans que Michelin produit des pneus en Amérique du Nord. La prospérité du groupe, ou du moins de la famille Michelin, est bien le fruit du travail des ouvriers de France, mais aussi du Canada, de Chine et de Singapour. Alors, qu'en 2010, Michelin supprimait plus de 1800 emplois en France, sous prétexte que les profits de l'année 2009 avaient baissé, le bénéfice réalisé en 2010 a atteint un record de plus de 1 milliard d'euros et il a encore augmenté de 39% en 2011. Autant dire que là aussi, le maintien des emplois aurait largement pu être financé et que l'évolution des salaires a été loin derrière celle des profits. Pour nous exploiter et réaliser leurs profits, les capitalistes se moquent des frontières. La crise s'en moque aussi. Alors, travailleurs, ne soyons pas les seuls à nous y accrocher. Notre salut, c'est bien de la lutte commune des travailleurs de tous les pays qu'il viendra. Je vais maintenant aborder une autre des conséquences choquantes des politiques patronales et gouvernementales. Je veux parler de la dégradation des moyens accordés à l'éducation nationale, une dégradation qui pénalise tout particulièrement les jeunes des classes populaires, ceux entre autres de l'enseignement professionnel auquel j'enseigne. Après plusieurs années de réduction de postes, l'éducation nationale sera une nouvelle fois touchée par une diminution importante à la prochaine rentrée. D'ores et déjà, ces restrictions du nombre d'heures d'enseignement ont provoqué la réaction des enseignants et des parents d'élèves. Ceux des collèges d'Amboise et de Château-Renaud, de Montrésor, se sont mis en grève ou se sont adressés à la population. Ils ont manifesté dans les rues, ils ont d'ailleurs été 200 au moins à Montrésor, pour dénoncer la fermeture des classes, tandis que d'autres seront surchargés. Dans les collèges, en effet, les effectifs augmentent bien plus que les moyens. Même situation dans de nombreuses écoles primaires du département, puisque 28 postes vont être supprimés, dont une quinzaine de maîtres spécialisés du réseau d'aide aux enfants en difficulté. Ce sont ainsi 700 enfants environ qui ne bénéficieront plus de ces classes adaptées. Il s'agit d'une véritable régression qui a provoqué une nouvelle protestation la semaine dernière des maîtres spécialisés et de ceux qui, à leur côté, dénoncent leur disparition programmée. On a pu voir aussi des enseignants en retraite s'indigner d'être rappelés au travail pour pallier la pénurie de professeurs, pénurie qui est pourtant organisée par le gouvernement lui-même. Dans le secondaire, les lycées perdront de nombreuses heures d'enseignement, en particulier les lycées professionnels. Ce sont autant d'emplois qui vont disparaître. Par exemple, plus de 7 postes seront supprimés dans le lycée où je travaille. Des 12 lycées professionnels du département, 3 seulement ne perdront pas d'heures d'enseignement ou en gagneront un peu. Dans le même temps, les heures supplémentaires demandées aux enseignants augmentent régulièrement d'année en année. C'est ainsi que se traduit le non-remplacement d'une partie des enseignants fonctionnaires qui partent à la retraite, avec au bout du compte la disparition pure et simple de certaines filières ou spécialités qui intéressent pourtant les jeunes et ont des débouchés. Ce sabordage de l'accès à l'éducation pour les jeunes des classes populaires, cela aussi c'est une attaque inacceptable, et d'autant plus inacceptable qu'elle est marquée du sceau du mépris des nantis à l'encontre des pauvres. « Avant que notre candidate Nathalie Arthaud ne prenne la parole, et pour conclure, je tiens à évoquer et à dénoncer le harcèlement dont les immigrés sans papiers sont victimes dans l'agglomération de Tours. Ici comme partout, la démagogie xénophobe des gouvernants se traduit par une véritable chasse aux sans-papiers et un harcèlement odieux. Pas une semaine ne passe sans que le zèle préfectoral et policier ne se traduise par des arrestations, des envois en centre de rétention. Tantôt, c'est un étudiant arménien qui est visé, tantôt un lycéen sur le chemin du lycée. Ou bien des familles déboutées du droit d'asile, alors qu'elles ont vécu les mille et un drames de la misère et de l'oppression dans des dictatures d'Afrique, du Caucase, des Balkans ou d'ailleurs. Les associations investies dans l'aide à ces persécutés ne savent plus où donner de la tête, tant les pouvoirs publics se défaussent de toute responsabilité. Le comble, c'est que non seulement les pouvoirs publics arrêtent et expédient en centre de rétention, quitte à être désavoués par leur propre justice, mais ils osent de surcroît poursuivre les militants solidaires des sans-papiers. C'est ainsi que, depuis près de 2 ans, 4 militants doivent se défendre contre la menace de sanctions à la suite d'une plainte de l'ex-ministre de l'Intérieur, Hortefeux. Connu pour sa délicatesse langagière, ce dernier avait en effet jugé intolérable que l'attitude de ses services à l'égard des sans-papiers soit comparée à la pratique des baleiniers piégeant les baleineaux pour capturer les adultes. Samedi dernier, nous étions dans les rues de Tours, aux côtés de ces militants et de travailleurs sans-papiers, pour dénoncer une fois encore la persécution des sans-papiers. Les travailleurs sans-papiers, qui ont avec tant de difficultés trouvé refuge ici et qui tentent d'y survivre, doivent tous bénéficier d'une régularisation de leur situation. Alors oui, c'est bien dans tous les domaines qu'avec la montée du chômage et de la misère se dégrade la vie sociale, les conditions de vie des classes populaires, en même temps que se mettent en embuscade les pires politiques anti-ouvrières et réactionnaires. Mais le monde du travail a la force de s'y opposer et bien des ressources de solidarité. Pour développer le programme des communistes que nous sommes face à cette situation, je cède la place à notre camarade, notre candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud.